Tu dis ici dans ce chapitre, Seigneur, que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et nous te glorifions que tu es fidèle à ce que tu dis, et donc nous te demandons que nous soyons attentifs à cette parole encore aujourd'hui, que nous soyons un peuple qui vit à la lumière de ce que tu dis, qui te fait confiance et qui agit en conséquence. Donc, fortifie-nous ce matin pour ta gloire. Nous t'en prions. Amen. Alors, moi, j'ai reçu cette semaine par mail une suggestion de LinkedIn. J'imagine que vous connaissez la plupart d'entre vous ce que c'est LinkedIn, qui a un peu attiré mon attention. Voici ce que le message disait. Connaissez-vous Dawn Orange, assistante cuisinière dans une église au Royaume-Uni? Alors, comme LinkedIn me suggérait d'envoyer une demande de connexion à des membres que je connais et en qui j'ai confiance, je n'ai pas cliqué sur « envoyer une invitation à cette personne ». Bon, bien entendu, si vous me connaissez, je m'appelle Steve Orange et Dawn, c'est mon épouse. Elle n'est plus assistante cuisinière au Royaume-Uni, même si elle n'était pas assise à côté de moi aujourd'hui. Elle est là-bas et on est toujours ensemble et on se connaît bien. Mais c'était un petit moment drôle dans ma semaine d'avoir reçu cette suggestion. Quel est le lien avec le prophète Jérémie, vous vous demandez? Ben, ça laisse un peu à désirer, c'est vrai. Mais c'est comme si le Seigneur envoie son prophète Jérémie avec un message assez similaire au peuple de Juda, le peuple de Dieu de l'époque. Connaissez-vous le Seigneur? D'une certaine manière, c'est aussi ridicule, un tel propos, que le message que moi j'ai reçu de LinkedIn. Car il ne s'agit pas, le Seigneur, de n'importe quel Dieu. Il est le Dieu d'Israël. Il est leur Dieu, le Dieu de Juda. Il les a délivrés d'esclavage en Égypte. Il les a amenés vers la terre promise. Il leur a donné sa loi, sa protection. Il demeurait parmi eux à travers le système sacrificiel dans le temple. Mais au stade où Jérémie est appelé par Dieu d'exercer sa vocation en tant que prophète, ce n'est pas aussi ridicule que cela, ces propos. Connaissez-vous le Seigneur? Vous voyez ça au verset 2. La parole du Seigneur lui parvient au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Et là, nous sommes dans l'an 627 avant Jésus-Christ. Donc, il y a bien longtemps, on est d'accord. À ce moment-là, Josias, lui, et on le sait de par le livre de Rois, il était un bon roi, Josias. Il cherchait à acter quelques réformes pour reconnaître la sainteté et la bonté de Dieu au sein de Juda. Mais le contexte dans lequel il régnait, Josias, c'était un contexte pourri. Et dès qu'il est succédé, lui, de Joachim, son fils, en fait, il y a un autre frère, Joachaz, qui le succède d'abord, mais dès son accession, il est mené en captif par des Égyptiens, Joachaz. Et donc, c'est son frère, Joachim, qui prend sa place. Dès qu'il prend sa place, il fait, d'après le résumé que la Bible nous donne dans le livre de Deux Rois, le chapitre 22, il fit, donc Joachim, ce qui déplaisait au Seigneur, exactement comme l'avaient fait ses pères. Il n'y avait à ce moment-là aucun respect du Seigneur, de ce que le Seigneur a fait dans le passé, de ce qu'il a dit, de ce qu'il voulait pour son peuple. Le résumé se trouve dans le verset 16, si vous voulez, de notre texte. Verset 16, « Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de tout le mal qu'ils font. Ils m'ont abandonné, ils offrent de l'encens à d'autres dieux, ils se prosternent devant l'œuvre de leurs mains. » Donc vous voyez, aussi bizarre que cela puisse paraître, le peuple de Dieu ne connaissait pas leur propre Dieu. À un moment là dans l'histoire du peuple d'Israël, à ce moment-là, le royaume s'était déjà divisé en deux parties. Peut-être vous savez cela, il y avait le royaume du nord, Israël, déjà disparu, envahi et dispersé ensuite par les Assyriens. Mais ensuite, il y avait le royaume du sud, Juda. Et donc, Juda est seul. Et Juda a une superpuissance, l'Égypte, au sud, et une nouvelle puissance qui commence à se faire connaître dans la région, Babylone. C'est en l'an 605 avant Jésus-Christ, oui, c'est après l'appel de Jérémie en 627, si c'est difficile à comprendre. Pourquoi? C'est parce que nous sommes avant Jésus, et donc les années descendent vers l'an zéro où Jésus vient, plutôt que monter comme il monte aujourd'hui après Jésus-Christ. Donc nous sommes à 22 ans après l'appel de Jérémie, lorsque les Babyloniens remportent une victoire décisive sur les Égyptiens à Carchemish. Et donc les Babyloniens au nord deviennent maîtres du Moyen-Orient. Et le ministère de Jérémie va avoir lieu, tout ce qu'on va voir dans le livre de Jérémie, va avoir lieu à l'ombre de la montée en puissance de Babylone au nord. Et le livre termine avec la chute de Jérusalem, capitale de Juda, et la déportation donc du peuple de Juda en Babylone pour la plupart. Le livre, il faut savoir, peut-être vous connaissez ça si vous l'avez déjà lu, est sombre, parce que cela arrive à un moment bien triste dans l'histoire du peuple de Dieu. Jérémie, en tant que prophète, est souvent surnommé l'homme de douleur, parce que lui aussi souffre dans ces circonstances. Mais le livre contient également des promesses extraordinaires, remplies d'espoir. On arrivera pendant notre série dans ce livre. Et c'est un livre qui donc nous permet, nous tous encore ici ce matin, qu'on soit déjà peut-être familier avec cette histoire du peuple de Dieu, ou qu'elle soit une première découverte pour nous ce matin. Ce livre nous permet d'apprendre des fondements en ce qui concerne le caractère de Dieu, le vrai Dieu qui se révèle à l'homme à travers ses prophètes. Le caractère de l'homme, nous allons aussi apprendre du péché, de l'idolâtrie, mais aussi des promesses et la puissance de Dieu, malgré l'apparente faiblesse de la situation de son peuple, la grandeur de la bonté et la souveraineté de Dieu sur toute personne et toute circonstance. Et ça, c'est ce que nous voyons dans le livre de Jérémie. Et le chapitre 1 met en place un cadre pour tout ce qui va suivre, parce que tout tourne autour du ministère de ce prophète courageux que Dieu appelle Jérémie. Et donc, vous verrez dans le plan que je vous propose 4 points pour capturer l'essentiel, je pense, de ce premier chapitre. Premier point, la parole que Dieu adresse à son prophète hésitant. Tu es désigné prophète et tu n'es pas trop jeune. La parole que Dieu adresse à son prophète hésitant, tu es désigné prophète et tu n'es pas trop jeune. Verset 4. La parole du Seigneur me parvint. Première fois donc que le Seigneur parle. C'est une expression qui reviendra à plusieurs reprises dans le livre. Avant que je ne te fasse dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué, je t'avais connu, je t'avais choisi. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, mis à part, je t'avais fait prophète pour les nations. Waouh! Avant même qu'il soit façonné dans le ventre de sa mère, Dieu avait prévu ça pour cet homme, Jérémie. Mais quelle est la réaction humaine de Jérémie à cette nouvelle, verset 6? Je répondis, « Oh Seigneur Dieu, je ne saurais pas parler, je suis trop jeune. Bon, » Sûrement, Seigneur, tu te trompes. Je ne suis pas expérimenté, je suis jeune, on ne sait pas exactement son âge, peut-être entre 19 et 22 ans, d'après les commentateurs. « Il te faut quelqu'un d'autre, Seigneur, pas moi. » Je ne suis qu'un fils d'un humble prêtre inconnu, d'après les premiers versets. Et d'une certaine manière, lorsque Jérémie réagit comme ça, il a raison. Si on demandait ici à un jeune adulte qui vient d'arriver au sein de notre Église de devenir ancien responsable de l'Église, la plupart d'entre nous diraient, à juste titre, Attendez, il n'est pas expérimenté, il est trop jeune. Mais ici, cela n'a pas d'importance. Pourquoi ? Verset 7. Mais le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis trop jeune, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc son appel ne dépend pas de son talent à lui, Jérémie, de son mérite en tant que membre du peuple de Dieu, de son expérience, mais du choix souverain de Dieu. Et si Dieu désigne la chose, il le fera. Peu importe les angoisses ou les réticences de la personne concernée. Quelle est la conséquence pour Jérémie? Verset 8, « N'aie pas peur, car je suis avec toi pour te délivrer. » Déclaration du Seigneur. Donc un vrai prophète de Dieu, du Seigneur qui parle à travers ce prophète, il ne peut pas se tromper car c'est Dieu lui-même qui parle à travers lui. C'est Dieu qui ordonne ce que le prophète doit dire. Alors ici, lorsqu'un prédicateur, donc moi y compris, veut trop vite saisir cette promesse pour ce que moi je vous dis ce matin, en réclamant que Dieu me désigne prophète et donc en déclarant que vous devez écouter ce que moi je vous dis, d'abord, à juste titre, nous devons appuyer sur le bouton pause. Pause, attends. Comment comprendre cela pour nous? Car au lieu de faire un lien direct entre Jérémie, le prophète, et moi, prédicateur d'une église locale en l'an 2025 ou 26 là maintenant, nous devons d'abord, en tant que peuple de Dieu, réagir et réfléchir sur le fait que nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance. Et donc, nous faisons un lien d'abord entre Jérémie et Jésus-Christ. Jésus, lui, est la parole de Dieu faite chair. L'évangile de Jean, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce que Jésus dit, donc, est ce que Dieu dit. Jésus est le serviteur choisi par Dieu, par excellence, au-dessus de tout autre serviteur qu'il a choisi dans le passé, y compris Jérémie. Et donc aujourd'hui, nous sommes, moi je suis appelé à croire, à faire confiance à ce que Jésus nous dit. Car Jésus révèle la vérité qui vient de Dieu. C'est Jésus, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père et qui est celui qui fait connaître Dieu. Donc nous sommes appelés à ne pas nous déclarer ou me déclarer prophète comme Jérémie, mais plutôt de faire croire aux autres de ne pas faire croire aux autres de ce que moi je dis, c'est la parole de Dieu, mais plutôt de diriger le dimanche matin les gens vers Jésus-Christ, parce que lui, il dit, est digne de notre confiance. Et cela, nous pouvons tous faire, diriger les gens vers Jésus-Christ, même si nous sommes jeunes et pas très expérimentés. Parce que la parole de Dieu ne dépend pas de moi. C'est Jésus que nous mettons en avance. Ce sont les paroles de Jésus qui sont les paroles de Dieu, pas les miennes, donc qui sont dignes de confiance. Cela est un soulagement pour nous, ici rassemblés. Car aujourd'hui, dans l'Église, si nous déclarons la parole de Dieu, que Dieu a soufflé par son esprit à travers les prophètes, oui, de l'Ancien Testament, mais ensuite à travers les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament qui nous donnent la Bible aujourd'hui, alors nous pouvons être certains que c'est Dieu qui parle là-dedans. Et Dieu, par son esprit, est encore avec nous lorsque nous déclarons ses vérités. Car là où Dieu parle, là se trouve également l'Esprit de Dieu. Les paroles que je vous dis, disait Jésus, sont esprit et vie. Et donc, oui, n'aie pas peur, comme dit le verset 8, car Dieu accompagne sa parole. L'évangile de Jésus-Christ, chers amis, reste digne de notre confiance, pas les propos d'un soi-disant prophète aujourd'hui. Donc, au lieu de mettre l'accent sur nous, tu sais, moi, je suis nul, ou je suis trop jeune, ou je suis trop médiocre, ou je suis trop lent à comprendre, ou je suis trop soucieux de ce que les autres pensent de moi, je suis trop intimidé par les dents des autres, même ici dans cette église. Rappelons-nous que ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons, mais c'est Jésus-Christ crucifié. La croissance, rappelons-nous, de la semence dans la parabole du semeur que le Seigneur nous donnait pour faire comprendre son royaume, ben la croissance ne dépend pas de la méthode du semeur. Ma méthode est supérieure que le vôtre, etc. Non, le semeur sème, c'est tout. La croissance dépend de ce que c'est cette semence, la parole de Dieu. Donc la parole que Dieu adresse à son prophète hésitant, c'est notre premier point. Tu es désigné prophète, tu n'es pas trop jeune. Deuxièmement, la parole que Dieu adressera aux nations à travers son prophète, son porte-parole, elle est certaine, difficile, mais nécessaire. Alors le Seigneur renforce ce qu'il a dit au jeune Jérémie lorsque verset 9, il étend la main et touche sa bouche. Puis le Seigneur lui dit, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. » Cette même expression, « J'ai mis mes paroles dans sa bouche » est employée lorsque Dieu parlait à Moïse, qui lui aussi était réticent d'accepter la tâche que le Seigneur lui a donnée. Dieu lui parlait à Moïse d'un prophète qu'il fera surgir pour le peuple, un prophète comme toi, disait Dieu à Moïse. Et ensuite, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Donc Jérémie, lui, il s'installe dans cette lignée de prophètes exceptionnels. Dans l'accomplissement final, encore une fois, ce n'est pas Jérémie lui-même, mais Jésus, le prophète par excellence, selon le Nouveau Testament. C'est parce qu'il a un rôle bien particulier dans le plan de Dieu que Dieu lui accorde à Jérémie ce signe physique. Il touche sa bouche comme confirmation que ce qu'il sortira de sa bouche sera la parole de Dieu. Mais ensuite vient le résumé de ce que ce prophète dira de la part de Dieu. Verset 10. Regarde, je te donne en ce jour autorité sur les nations et sur les royaumes pour déraciner, pour démolir, pour faire disparaître, pour raser, mais aussi pour bâtir et pour planter. Donc Jérémie, ce jeune fils effrayé d'un prêtre du village, s'adressera, lui, à des nations. Puis il aura même une autorité sur les nations, sur les royaumes. Pourquoi ? Parce qu'il parlera pour Dieu. Et son message perturbera les nations, oui, surtout vers la fin du livre, nous voyons cela. Mais principalement dans ce livre, il s'agit de Judas elle-même et ses responsables. Déraciner, démolir, disparaître, raser. Quatre verbes là, négatifs, n'est-ce pas ? Mais ensuite deux verbes plus constructifs. Bâtir, planter. C'est vrai que le livre parle plus donc de jugement que d'espérance. Mais afin de pouvoir bénéficier des promesses de la nouvelle alliance qui se réalise en Jésus-Christ, nous devons faire face à notre besoin de ces promesses. Notre incapacité laissée à nous-mêmes, même de par nos efforts religieux, ou nos gestes de bienfaisance envers les autres. Cette incapacité que nous avons de détourner le jugement qui découle suite à la rébellion de l'homme à propos de son Dieu créateur. Cette semaine, je me promenais à côté d'un spa. Et j'ai vu le nom de ce spa, Bain Bleu. C'était à côté d'un lac. Et le slogan qu'ils ont écrit en dessous du spa m'a interpellé. On ne peut pas changer le monde, mais pour vous, nous changeons le décor. On ne peut pas changer le monde, mais si vous entrez dans notre magnifique spa pendant un petit moment, ben le décor va changer. Vous allez avoir un bon petit moment, ce serait sympa. Ça m'a fait sourire, car j'ai tout de suite pensé à Judas face à Jérémie, parce que j'étais en train de réfléchir à ce message. Ce que eux, ils voulaient, le peuple de Dieu, c'était un prophète qui disait ce que eux, ils avaient envie d'entendre. Quelques platitudes, quelques belles paroles à propos de la paix, une belle couche religieuse sous laquelle ils pouvaient encore prendre refuge, sans doute avec une liturgie solennelle, une louange qui donnait des frissons dans le dos. Mais tout cela, c'est du décor. Pour vous, nous changeons le décor. C'est ça ce qu'ils cherchaient de Jérémie. Mais de tels discours ne changent pas le monde. Dieu, lorsqu'il parle, il annonce des choses pas forcément agréables à entendre au premier abord. Mais si nous recevons ce qu'il dit, si nous réagissons avec humilité, avec repentance et foi, nous découvrons effectivement qu'il change le monde. Ces plans effectués en Jésus-Christ transforment le monde. Donc Dieu, il n'est jamais un Dieu domestiqué qui fait les petites choses gentilles que nous attendons de lui sur le moment. Si c'est ça ce que vous cherchez, les amis, il ne faut pas ouvrir votre Bible. Car le Dieu qui se révèle, qui parle, il n'est pas un tel Dieu. Il est le Dieu souverain, le Créateur, le Seigneur de tous, qu'on le veuille ou pas. Il nous appelle d'abord, on verra ça dans le livre, à la repentance, faute de quoi il n'y a que jugement. Car le livre exposera que nous ne sommes pas dignes, nous, de ramasser les miettes sous la table du Seigneur. Bon, il se peut que vous soyez parmi nous et vous avez besoin un peu de cette douche froide de la part du vrai Dieu. Au lieu de chercher à contrôler un Dieu de votre imagination, vous devez faire face à Dieu tel qu'il est. La bonne nouvelle, c'est que d'entamer ce processus, de se tourner vers ce Dieu, c'est de découvrir sa bienveillance et son pardon et l'espérance qui s'attache à son appel. Jésus-Christ, pour finir, il est venu pour sauver. Pas pour juger, mais jugera, il le fera, si nous estimons pouvoir nous servir de lui pour nos propres objectifs. Mais d'autres seront parmi nous ayant déjà placé notre confiance en Jésus-Christ. Et à vous, le danger, c'est de tenir ferme dans une foi qui paraît, à vue humaine, peu nécessaire, la foi chrétienne, pour l'épanouissement de l'homme. Peu probable de faire quoi que ce soit d'autre que de changer le décor. Souvent, c'est ça le regard que nous avons sur la foi. Ça ne change rien. Vous faites ça, c'est votre goût, faites-le, mais ce n'est pas important. Ça ne change rien que le décor. Mais c'est faux. Alors, prenons conscience de ce que Dieu montre dans deux visions consécutives à Jérémie. D'abord, le verset 11. La parole du Seigneur me parvint. Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, je vois une branche d'amandier, de l'arbre veilleur. Alors, pourquoi il voit cette branche d'amandier ? Car le mot pour amandier, dans l'original, ressemble au mot pour le verbe veiller. Voilà pourquoi notre traduction ici précise qu'il s'agit de l'arbre veilleur. Dans verset 12, le Seigneur me dit, tu as bien vu, car je, et voici le mot, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amandier, veiller. C'est quasi le même mot dans l'original. Et ainsi, nous sommes conscients qu'en français, ça ne marche pas. car le mot pour amandier ne ressemble pas du tout à celui de veiller. Mais ainsi, Jérémie est encouragé à comprendre que le Seigneur veille sur sa parole. Ce qu'il dit va avoir lieu. Et Jérémie doit retenir cela, car beaucoup, beaucoup d'autres autour de lui refuseront de croire ce qu'il dit. Alors, de même pour nous, nous ne sommes pas naïfs en tant que disciples de Jésus-Christ. Beaucoup, beaucoup d'autres n'ont pas le moindre intérêt de prêter attention à ce que Dieu nous dit définitivement dans la révélation de son Fils. Mais ce qu'il dit va avoir lieu. Le Seigneur veille sur sa parole. Sa parole s'accomplira. La deuxième vision souligne non seulement le message, que le message est certain, mais aussi difficile. Verset 13, « La parole du Seigneur me parvint une deuxième fois. « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je vois une marmite qui bouillonne du côté nord. » Alors j'avais l'intention d'amener une grosse marmite qu'on a à l'église pour vous illustrer cela. Cette marmite face donc à Juda qui vient du nord. Et elle n'est pas remplie de bonnes choses, comme c'est parfois le cas à l'eau de nos agapes. Et on sait d'une bonne chose d'une marmite. Ici, ce qui est à l'intérieur n'est pas agréable. Verset 14. Le Seigneur me dit, c'est du nord que le malheur déferlera sur tous les habitants du pays. Oui, j'appelle tous les clans des royaumes du nord, déclaration du Seigneur, ils viendront et chacun d'eux placera son trône à l'entrée des portes de Jérusalem, devant ses murailles et tout autour et devant toutes les villes de Juda. Le jugement vient du nord et le nord se révélera comme étant Babylone plus tard dans le livre. Alors ce message, Juda refusait de croire jusqu'à ce que cela arrive et la ville chute. Cela allait à l'encontre, ce message de jugement, de tout ce qu'eux, ils voulaient croire. Qu'ils étaient, eux, le peuple de Dieu, qui devaient encore bénéficier des promesses et de la présence de Dieu, peu importe l'état de leur cœur. Que leur Dieu ne les livrait jamais dans les mains de leurs adversaires. Mais si. Avaler des médicaments désagréables ne fait jamais plaisir. Pour un enfant, mais peut-être aussi pour nous, des adultes, n'est-ce pas? Même si on essaie d'adoucir la chose en mettant du sucre ou des bonbons avec, on a toujours envie de vomir. Mais parfois, c'est nécessaire pour nos enfants, pour nous-mêmes. Ici, c'est nécessaire qu'on ne se moque pas de Dieu, pas du vrai Dieu. Devant lui, ce qu'un homme aura semé, nous dit le Nouveau Testament, il le moissonnera aussi. Le même apôtre Jean qui a écrit Jean 3, 16 et 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » il a aussi écrit quelques versets plus tard, Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Donc ne nous détournons pas dans l'Église de Jésus-Christ du message de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un message qui sauve. Et qui sauve de quoi? D'un jugement à venir. Cette parole s'accomplira. Et réagir donc face à ce message, comme il se doit, donne suite au salut, permet un avenir dans lequel nous tiendrons dans la présence de Dieu pour toujours. Car en Jésus-Christ, nos péchés nous sont pardonnés parce qu'il les a portés sur la croix. Une autre parole est plus facile à entendre, chers amis, mais ultimement est incapable de nous sauver. Donc ne nous fions pas à ce que nous avons envie d'entendre. Faisons confiance à ce que Dieu révèle en Jésus-Christ. Alors nos deux derniers points forment un ensemble, on va les voir ensemble. Le courage dont le prophète doit faire preuve, ce serait un combat, et le réconfort pendant ce combat, ils ne pourront rien faire contre toi. Le courage dont il doit faire preuve est bien clair à partir du verset 17. Verset 17, si vous êtes endormi, essayons d'aider cette personne et regardons ensemble le verset 17. On arrive à la fin, mais pas tout de suite. Quant à toi, tu passeras une ceinture à tes reins. C'est une façon de dire, prépare-toi. Tu te lèveras, tu leur diras tout ce que moi je t'ordonnerai. Ne sois pas terrifié par eux, de peur que je ne te terrifie devant eux. Moi aujourd'hui j'ai fait de toi une ville forte, une colonne de fer, une muraille de bronze face à tout le pays, devant les rois de Juda et ses princes, ses prêtres et le peuple du pays. Ils te feront la guerre. Donc oui, il y a un combat à venir pour Jérémie. Et la question pour lui, Salomon, à un moment donné dans ce livre, est celle-ci, à la fin du verset 17. Qui est-ce que tu crains, Jérémie? Ne sois pas terrifié par eux, de peur que je ne te terrifie devant eux. Jérémie, bien que parfois découragé dans ce livre, il fait preuve, effectivement, de ce courage, parce qu'il a la crainte de Dieu dans son cœur. Et encore une fois, il nous renvoie au prophète qui le succédera plus tard, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus devait aussi faire preuve de combat, de souffrance. Il était méprisé et rejeté par les hommes. Il est l'homme de douleur par excellence. Il est le fils dont les vignerons, dans la parabole que Jésus racontait à leur sujet, qui se sont emparés de l'héritier de la vigne, le fils, à savoir Jésus. Ils l'ont tué, l'ont jeté hors de la vigne. Et les disciples de Jésus doivent aussi faire preuve du courage, car le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, disait Jésus, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Oui, chers amis, il faut du courage pour suivre Jésus. Au lieu de rejoindre la foule qui aisément ignorait Jésus, ou qui s'est moquée de ceux qui le prenaient au sérieux. Il faut du courage de ne pas céder à un message plus aisé, un message qui nous flatte, qui nous encourage à ne pas suivre ce que le Seigneur dit clairement dans sa parole. Il faut du courage pour témoigner de nos espérances en Jésus-Christ lorsque les gens cherchent un petit sparadrap plutôt qu'une réelle opération de cœur pour recevoir le cœur renouvelé par Jésus-Christ. Rien que cette semaine, un autre pasteur m'a partagé ses luttes dans son église d'être accusé, lui, d'être trop carré, de chercher, lui, à intervenir dans le cas d'une femme de son assemblée qui fréquente, elle, un homme non-croyant qui vit en cohabitation avec lui, et qui ne voit aucune raison pour ne pas continuer à chanter devant l'assemblée et à enseigner aux enfants dans cette assemblée. Et au lieu de critiquer elle, la plupart des gens dans cette église critiquent lui, parce qu'ils voient un problème avec cela. Verset 19, « Ils te feront la guerre. » C'est pas facile tenir dans un tel contexte. Mais, ils ne t'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. Déclaration du Seigneur pour te délivrer. Voici donc notre réconfort, chers amis, car lors de ce combat, le Seigneur dit, je suis avec toi pour te délivrer. Oui, le Seigneur était avec Jérémie, nous le verrons, il était aussi avec Jésus, qui lui, mis à mort, est revenu à la vie. Comment termine la parabole des vignerons que j'ai citée là tantôt? La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est un prodige, à nos yeux. Jésus est revenu à la vie. La victoire est avec lui. Le Seigneur était et est avec lui. Et le Seigneur Jésus promet également d'être avec ses disciples aujourd'hui. Que disait-il à ses disciples à la fin de l'évangile de Matthieu ? Et moi, l'évangile termine ainsi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais cet encouragement-là vient dans quel contexte qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde ? Dans le contexte de cette tâche exigeante qu'il nous donne collectivement de faire des disciples de toutes les nations. Comme pour Jérémie, vous voyez, l'encouragement de sa présence vient dans un contexte de difficulté, de combat, lorsque nous mettons sa parole en pratique. Le danger pour nous aujourd'hui, c'est de réclamer l'encouragement de sa présence hors du combat. Comme lorsque je me sers d'un bon chocolat chaud à la fin d'une journée tranquille et je dis, oh, c'est agréable, je suis avec toi. Mais ce n'est pas forcément nécessaire, ce chocolat chaud. Non, sa présence parmi nous, avec nous, est comme plutôt un morceau de chocolat que nous gardons en bouche lorsque nous sommes en train de faire une longue ascension d'une montagne dans des températures basses. C'est là où le chocolat est nécessaire et vraiment apprécié. C'est sa promesse d'être avec nous lorsque nous nous efforçons de lui obéir, d'enseigner aux uns et aux autres, de mettre en pratique tout ce que Jésus nous prescrit, même lorsque je suis fatigué, occupé, accablé par d'autres soucis, même lorsqu'il y a de l'opposition. Je suis avec vous. Jusqu'à la fin de ce monde. La mission à laquelle il a appelé Jérémie, la mission à laquelle il nous appelle, c'est sa mission, c'est sa parole qu'on proclame, sa parole que lui, il va veiller là-dessus pour accomplir. Alors je pense à nous mène à notre dernier chant, et merci à Pierre ou à Rodrigue d'avoir choisi ce dernier chant, parce que la troisième strophe de ce dernier chant, vous voyez sur le dos du livret, « Enseigne-moi désormais à dépendre de ta grâce. Garde mon cœur et mon âme. » De quoi ? Des dangers qui me font face. Oui, nous sommes face à des dangers en tant que disciples de Jésus-Christ dans la mission qu'il nous a confiée. Mais nous disons « Digne es-tu d'être loué par chaque acte, chaque pensée ?» Ô grand Dieu, céleste roi, glorifie ton nom en moi. Donc nous allons chanter ce dernier cantique. J'invite les musiciens à s'avancer et nous chantons ceci comme une réponse à ce que nous venons d'entendre, comme une prière. Donc mettons-nous debout et chantons ce cantique.